That's impossible. No one knows nothing. Someone, somewhere, knows. I want the man who knows. Right. Who finishes what?
Bonjour, bonjour, c'est le quatrième numéro d'Essorage. Salut Clee.
Salut Mila.
Alors aujourd'hui, encore un sujet bien réjouissant, on va faire un petit topo spécial Arménie. Alors pourquoi l'Arménie? Parce que c'est l'année de l'Arménie, 2006-2007 en France. On célèbre l'Arménie. Et puis pour un sujet un peu moins joyeux, par rapport à l'assassinat du journaliste Randing, on en parlera tout à l'heure, qui a été assassiné par un nationaliste turc il n'y a pas très très longtemps en Turquie. Donc voilà pourquoi l'Arménie aujourd'hui. Et puis on va commencer tout de suite avec un petit point pour resituer l'Arménie, tant géographiquement que culturellement, on va dire, avec Clee.
Oui, donc c'est un petit point qui va aller assez vite parce qu'on va développer pas mal de choses après, dans la suite de l'émission. Donc l'Arménie, géographiquement, c'est situé, on va dire, entre la Turquie et la Russie, même s'il y a d'autres pays du Caucase qui font lien entre ce pays et la Russie. En gros, c'est au nord-est de la Turquie. Donc la capitale, c'est Erevan. Et il faut savoir qu'en 301, en l'an 301, l'Arménie a été le premier pays où le christianisme a été déclaré religion d'État. Donc historiquement, l'Arménie, c'est un très grand pays. Ça s'étendait à la base sur les territoires actuels de Turquie, d'Iran et les pays du Caucase. Mais l'Arménie, en fait, ça a eu une histoire très chaotique. Le pays a alterné des périodes en fait, d'indépendance et de soumission. Les Arméniens ont ainsi été dominés pendant très longtemps par les Turcs. Mais ça, on y reviendra beaucoup plus tard dans l'émission, on développera. Donc après toute cette période d'indépendance et de soumission alternée, on arrive au 21 septembre 1991, où la République d'Arménie est déclarée indépendante. Donc c'est le pays que l'on appelle Arménie aujourd'hui, que l'on connaît aujourd'hui dans ses territoires actuels.
Alors un peu en prélude au génocide arménien qu'on va évoquer tout à l'heure et qui a eu lieu entre 1915 et 1917, il s'est quand même passé pas mal de choses dans les années qui ont précédé, en particulier à la fin du 19e, entre 1894 et 1896. À ce moment-là, on assiste à une première série d'actes barbares et de tortures sur les Arméniens. En fait, à ce moment-là, le peuple arménien, qui fait partie de l'Empire ottoman, réclame toute une série de réformes et une reconnaissance de la part de l'Empire. Et à l'époque, l'Empire qui est mené par le sultan Abdul Hamid II était un petit peu tenu par quelqu'un qui avait une main un peu de poigne. Il était appelé le sultan rouge ou le grand seigneur. Pas forcément le grand seigneur comme un seigneur de guerre, mais un seigneur comme un boucher, en fait. Et donc, face aux révoltes arméniennes, le sultan va ordonner de mater la rébellion avec l'aide des montagnards kurdes. Donc, le bilan de ce premier massacre des peuples arméniens s'élève entre 200 000 et 250 000 morts. Et il y aura aussi 1 million d'Arméniens dépouillés de leurs biens. Ils seront souvent massivement convertis à l'islam, puisqu'il faut savoir quand même que les Arméniens, ils sont majoritairement de religion catholique. Et donc, on va assister à des saisies de biens, des églises brûlées, transformées en mosquées, etc. Donc, c'est le premier massacre.
Oui, alors, il y a eu un deuxième massacre. Pour le comprendre, ce massacre, en fait, il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, donc juste après ces premiers massacres que tu viens d'évoquer, Mila, il y a un groupe politique opposant au sultan qui émerge sur la scène nationale. Ce mouvement, les Européens vont les appeler les jeunes Turcs, par opposition aux vieux Turcs qui sont les Ottomans, enfin toute la clique du sultan qui dirige l'Empire Ottoman. Et en fait, pour arriver au pouvoir, ces jeunes Turcs vont s'appuyer sur justement ces mouvements indépendantistes et autonomistes arméniens. Ils vont se servir de ce peuple-là pour arriver au pouvoir. Donc ils y arrivent, 1909, les jeunes Turcs sont au pouvoir, c'est eux qui dirigent l'Empire ottoman, seulement ils ne tiennent pas leurs promesses. C'est-à-dire qu'ils ont bien voulu de l'aide des Arméniens pour arriver au pouvoir, mais ils sont absolument contre l'idée de la création d'un État, ou au moins d'une province indépendante arménienne dans l'Empire ottoman. Et parce qu'ils sont très nationalistes. En fait, ce qui se passe, c'est que l'Empire ottoman est en train de s'écrouler. Et pour refaire une identité un peu turque, les jeunes Turcs vont dire, ceux qui habitent dans l'Empire ottoman, ce sont des Turcs qui parlent la langue turque, qui ont des racines communes. Or, les Arméniens, pour eux, ne rentrent pas dans cette conception. Donc, pour créer cette nation turque homogène, ils vont vouloir éradiquer les Arméniens. Donc on en arrive au deuxième massacre, qui est donc en 1909, où là, il va y avoir entre 20 000 et 30 000 morts. Bref, il y a une espèce d'épuration, en fait, plus ou moins ethnique, qui s'opère à ce moment-là.
1914, c'est la Première Guerre mondiale, donc tout le monde est concerné. À ce moment-là, les Russes imposent à l'Empire ottoman une commission pour surveiller que l'Empire ottoman s'occupe bien, on va dire, entre guillemets, des minorités qui vivent dans son pays, puisqu'on a vu qu'il y a quand même quelques massacres concernant les Arméniens et du boycott sur les Juifs, sur les Grecs, etc. Donc ils se mêlent de tout ça et ils installent cette commission. Et les jeunes Turcs dont tu parlais tout à l'heure, Kli, sont un peu dégoûtés de cette espèce d'ingérence, on va dire ça comme ça. Ils prennent ça comme une humiliation. Et lorsqu'éclate la guerre en 14, en août 14 pour eux, quelques mois après, pour se venger des Russes et de leur ingérence, les jeunes Turcs vont proposer au sultan, qui est à l'époque au pouvoir, de se rallier aux côtés des Allemands, puisque forcément les Allemands sont opposés aux Russes. Et du coup, ils se rallient aux côtés de l'Allemagne et de l'Autriche contre la Russie et les Occidentaux. Donc, entre ces deux ennemis, la Russie et l'Empire ottoman, ça va donc jouer stratégie. Chacun va essayer de mettre dans sa poche la communauté arménienne qui vit chez l'adversaire, puisqu'il y a des Arméniens des deux côtés, en Russie et sur l'Empire ottoman. Donc, c'est finalement la Russie, aidée des Arméniens qui vivent dans l'Empire ottoman, qui va avoir le dessus. Et les jeunes Turcs, battus et humiliés par cette espèce d'alliance entre les Russes et les Arméniens, vont se servir de cette soi-disant trahison des Arméniens pour justifier le massacre, le plus gros massacre, celui qu'on connaît actuellement, celui qui a eu lieu entre 1915 et 1917. Alors au final, pendant ces deux années, on va avoir une espèce de véritable génocide de la population arménienne sous prétexte de chercher les traîtres en fait, qui auraient collaboré avec les Russes. L'armée ottomane va piller, déporter, arrêter, va envoyer dans des espèces de camps de travail, va tuer entre 1 million et 1 million et demi d'Arméniens. Donc au final, il va rester à peu près 500 000 Arméniens disséminés un peu partout, ce qu'on appelle là aujourd'hui la diaspora arménienne, un peu partout dans tous les pays du monde. Et la plupart des survivants, en fait, ce sont ceux qui se sont échappés parce que les autres, en général, ont été obligés de se cacher dans le pays et la plupart n'ont pas survécu.
Juste après la Première Guerre mondiale, donc l'Empire ottoman est défait. Et ce qui va se passer, c'est que le nouveau gouvernement turc qui est au pouvoir à ce moment-là, qui est toujours soumis au sultan, c'est toujours l'Empire ottoman, décide de chercher les responsables de ces massacres et de les juger plutôt que de laisser les alliés le faire à leur place. Donc c'est ce qu'on appelle le procès des unionistes. Donc il va y avoir des commissions d'enquête qui sont mises en place, qui vont parcourir le pays pour aller rechercher les responsables de ces massacres. Au final, le bilan est un peu mitigé parce qu'en fait, la plupart des dirigeants ont fui justement l'Empire ottoman pour ne pas se retrouver jugés. Ils ont fui en Allemagne. Donc il y a eu beaucoup de condamnés à mort par contumace.
Au passage, est-ce que tu peux rappeler ce que ça veut dire être condamné par contumace ?
Oui, alors par contumace, ça veut dire que les jugés n'étaient pas présents à leur procès. Donc c'est, entre guillemets, la première reconnaissance, mais qui a été complètement passée à la trappe par la suite des événements.
Oui, alors en plus du procès des unionistes, on est à la fin de la guerre et donc forcément, comme l'Empire ottoman est assimilé aux vaincus, c'est-à-dire à l'Allemagne et à l'Autriche, les alliés vont leur imposer un traité qui leur est pas du tout favorable. Et donc ce texte, qui s'appelle le traité de Sèvres et qui a été signé en 1920, prévoit entre autres que l'Arménie soit reconnue comme un État complètement indépendant et libre, et prévoit aussi que les États-Unis fixent les frontières entre l'Empire ottoman et l'Arménie. Donc ce traité, même s'il n'a pas été appliqué par la suite, tu vas nous l'expliquer tout à l'heure, marque en fait l'éclatement et la chute réelle de l'Empire ottoman.
Ce traité a été signé par l'Empire ottoman. Or, il y a un personnage qui va surgir en Turquie qui s'appelle Atatürk.
Un coup de théâtre, ouais.
Voilà, de son vrai nom Mustafa Kemal. Atatürk, c'est son surnom.
Ça veut dire le père des
Turcs. Père des Turcs, c'est ça. Et en fait, cet homme militaire va décider de reconquérir la Turquie pour abolir le sultanat. Donc, il y arrive. Le 1er novembre 1922, Atatürk arrive au pouvoir en Turquie. Le sultanat est aboli. Et là, Atatürk dit aux alliés, écoutez, moi, je ne reconnais pas le traité de Sèvres parce qu'il n'a pas été signé par moi qui suis représentant aujourd'hui de la Turquie, mais par l'Empire ottoman qui n'existe plus aujourd'hui. Donc, il va demander un nouveau traité. C'est ce qu'on va appeler le traité de Lausanne qui a été signé le 24 juillet 1923. Problème. Ouais. Dans ce traité, l'Arménie passe complètement à la trappe.
Elle n'est même pas mentionnée. Ouais.
Elle n'est même pas mentionnée. Il n'est plus question d'avoir un État indépendant ou même une province, un minimum autonome. Quoi. C'est, on n'en parle plus du tout. En fait, ce traité a juste fixé les frontières de la Turquie telles qu'on la connaît aujourd'hui. Le principe, c'est qu'Atatürk voulait fonder une Turquie une et indivisible. Donc, il a voulu enlever de son pays tous les gens qui n'étaient pas turcs.
Oui, qui menaçaient l'union,
voilà.
En fait.
Donc, ça. Les Grecs ont été foutus dehors et priés de retourner chez eux en Grèce. Et les Arméniens, ils n'ont pas été foutus dehors, mais en gros, on les a priés de se taire. Il fallait qu'ils deviennent turcs, point barre. Et donc, le traité de Lausanne, c'est celui qui a été appliqué et qui a complètement
scellé,
oublié,
en fait, ouais.
Oui, et oublié les Arméniens et les a laissés à leur sort de citoyens de seconde zone.
Voilà. C'est l'heure du break musical, on va laisser refroidir les cerveaux pendant à peu près 4 minutes 30 avec un titre qui s'appelle Life We Choose par Nas et MF Doom, on se retrouve après.
Yo, it's the life we chose. Where friends become foes, and they know it gets you killed quicker than you know. This is the life we chose. Bring fake snakes and hoes, and the only way out is never going broke. This the life we chose. Ain't too many happy endings. That's why there ain't too many happy niggas in it. And I'll admit it, this life is fucked up, but yo, this life is the only life I know. Gold bathtubs, making love to my queen. Get my back rubbed, Chardonnay rolling up green. Statues, marble floors, red paintings on my wall. My lifestyle's like the Forbes magazine. Closets full of rockets and submachines. Take this nigga out the projects and his thug team. Yo, we cruise past streetlights, ill rides. Mr. Chow, both coasts with the most loud toast. Calicoats, roast y'all folks, keep y'all dying. Cause it's hard to fuck around when we dealing with science. My enemies got money, so y'all should watch how I play it. They never know we enemies until they hear me say it. Till they kids on the phone saying, please daddy pay it. Till they brains on the floor, mixed on the pavement. High class elegance, you respect or you hiss. You go against, you rather piss on an electrical fence. It's strategic, how these niggas want you to think. You'd be surprised who be the one to put you to sleep. While you stink, yo, these streets don't allow you to blink. You get showered by lead coming out with your mink. Bow ties and tuxedos, bust eagles, dump drugs and acid, then they rush with the Rico. It's hard fucking with niggas you hope you can trust. You a fool if your main bitch is easy to fuck and you got money. Is these hoes greedy or what? Shit is devious, ex-friends what, and you stuck. It's the life we chose. When friends become foes and the dough it get you killed quicker than you know. This is the life we chose. Bring fake snakes and hoes, and the only way out is death or going broke. That's the life we chose. Ain't too many happy endings. That's why there ain't too many happy niggas in it. And I'll admit it, this life is fucked up, but yo, this life is the only life I know. What's love when you don't give your man enough dough? He wanna stick you. What's love? You got beef, nobody rolling with you. What's love? You locked up and your family don't care. Is love a four-letter word that deceives the ear? What's real when you know your man's girl is a hoe and you don't even let him know? Fucked up before. What's real when you talk behind a man's back, then you see him and give him that, now explain that. What's trust when they separate your case, when you at your court date, your code D can't look in your face. What's trust when you keep your wife away from your man and he never crossed you, but you claim he's fam? What's trust when you get bust, your niggas don't retaliate, they blaze purple haze with him the next day? God forbid one of my niggas get hit, I'ma go haywire, won't hesitate, I'ma spray fire. But everybody's different, you won't know how you react till you in that position, and that's an actual fact. The hearts of men change as time goes on. Who's wrong? You was hungry when you stuck through, he came back to buck you. Who's wrong? Foul on your life, now you're 90. On your deathbed, you regret being grimy. What's lust? A bust nut? What's a thug? A ghetto child raised around drugs till he's old enough to bust slugs. Then what's jail? To rehabilitate or to make a nigga worse when he come home to catch another case? Life's about decision. You choose it, you gotta live it. You did it, heaven or hell or prison. Who knows when your clock will stop ticking? Get your weight up, save up before it's over, neighbor. I told you, you're getting older, player. Look at those who gave up. It's the life we chose. When friends become foes and the dough will get you killed quicker than you know. This is the life we chose. Bring fake snakes and hoes, and the only way out is death or going broke. It's the life we chose. Ain't too many happy endings. That's why there ain't too many happy niggas in it. And I'll admit it, this life is fucked up, but yo, this life is the only life I know.
Vous êtes toujours sur La Grenouille, c'est toujours le quatrième numéro d'Essorage consacré à l'Arménie et on continue notre chemin. Où on en est aujourd'hui? On a fait un petit point historique, on revient maintenant à nos jours. Alors si le génocide arménien, le plus gros, celui dont tu as parlé tout à l'heure, 1915-1917, est reconnu depuis les années 80 par les institutions internationales comme le Parlement de l'Europe, le Conseil de l'Europe et d'autres, il n'est toujours pas assimilé et reconnu en Turquie et il refuse toujours de parler de génocide. Il parle même de prétendu génocide arménien. Ça veut bien dire que de toute façon, pour eux, il n'y a pas eu lieu. Et donc la Turquie, quand on lui parle de ce génocide, là se défend sur trois points en disant que ce n'est pas un génocide puisque elle conteste tout d'abord le nombre de morts. Pour la Turquie, il y a eu à peu près entre 300 000 et 500 000 morts, alors que les estimations officielles tablent sur 1 million à 1 million et demi, ça fait 3 à 5 fois plus. Donc pour eux, déjà, il n'y a pas eu assez de morts pour que ce soit un génocide. Ensuite, ils disent que ce massacre d'Arméniens n'a pas été prémédité. Et ensuite, la Turquie essaie de jouer sur le fait que, à l'époque justement de ce massacre et du génocide, les milices arméniennes se sont vengées sur les populations civiles turques. Et ça, la Turquie ne comprend pas trop qu'on ne le mette pas en lumière et qu'on mette juste en lumière le génocide arménien. Et pour eux, les Arméniens sont aussi coupables que les Turcs. Ils se sont autant tapés dessus l'un sur l'autre. Donc ça, c'est un point. Et donc, pour la Turquie, génocide, il n'y a pas eu. Ils reconnaissent qu'il y a eu quand même quelques morts. Le mot est un petit peu faible. Et ensuite, aujourd'hui, le problème, c'est qu'en Turquie, quiconque ose affirmer qu'il y a eu un génocide tombe sous le coup de la loi, puisqu'il y a une loi qui punit d'emprisonnement quiconque menace l'unité de la nation. Ça s'appelle l'insulte à la nation turque. Et donc, si vous allez en Turquie, que vous osez affirmer que la Turquie a commis un génocide sur les Arméniens, vous risquez de finir en tôle. C'est un peu ce qui s'est passé pour quelques-uns. On va en parler tout à l'heure.
Pour comprendre en fait ce blocage de la Turquie à reconnaître le génocide, c'est un petit peu compliqué. Il faut savoir que les Turcs sont comme pris d'une amnésie collective. En fait, les Turcs considèrent que la Turquie actuelle est née en 1922, quand Atatürk est arrivé au pouvoir. Parce que avant, c'était l'Empire ottoman, et que l'Empire ottoman n'avait pas de réelle identité. La seule identité possible, c'était l'islam, c'était la religion. Mais il n'y avait pas une identité turque, il y avait trop de populations mélangées dans l'Empire ottoman. Et donc quand Atatürk est arrivé au pouvoir, il a dit voilà, la Turquie est une et indivisible, et la Turquie ce sont les gens qui parlent turc, qui ont telle habitude culturelle. Ce qui fait que tous les manuels d'histoire ont été réécrits, et que l'Empire ottoman a finalement été très peu évoqué pendant longtemps. Ça n'existait plus. Or, le génocide arménien est arrivé sous l'Empire ottoman.
Oui, donc forcément, ça a été rayé de l'histoire en même temps, quoi.
Ça a été rayé, on n'en parlait pas, c'était un autre gouvernement, c'était pas la Turquie actuelle, c'était quelque chose de complètement autre. Donc les gens sont devenus amnésiques, forcés. Mais ça s'est créé en 1922, aujourd'hui on est en 2007. Ça fait quand même beaucoup de générations qui ont été élevées dans cet état d'esprit-là. Donc c'est quelque chose qui est véritablement ancré chez les Turcs. Et le deuxième problème qui est lié quand même à ce que je viens de dire, c'est qu'à partir du moment où on essaye de faire prendre conscience à la Turquie que même si c'était l'Empire ottoman, les Turcs sont quand même responsables de génocide, ça veut dire qu'il faut attaquer les gens qui sont à l'origine de cette création de la Turquie. Il faut attaquer Atatürk, il faut attaquer tous les mythes fondateurs de la Turquie.
Ouais.
Voilà, il faut attaquer les icônes, il faut dire la République. C'est quelque chose qui s'est construit sur un massacre organisé. Et ça, les Turcs ne sont pas du tout prêts à le reconnaître et à l'entendre.
2006 et 2007 en France, l'année de l'Arménie, mais malheureusement, on a commencé l'année 2007 par un événement pas très sympa, puisque le 19 janvier dernier, Randing, un journaliste, a été assassiné par un très jeune militant nationaliste. Alors, Randing, il est arménien, il est aussi turc, et il a un point de vue vraiment très très original sur la question du génocide, parce que pour lui, on va dire qu'il en a un peu rien à faire de tergiverser pendant des heures pour savoir si c'est un génocide, si c'est un massacre, si c'est vraiment un génocide, etc. Lui, pour lui, ce qui est le plus important, c'est que tout le monde se rende compte de ce qui s'est passé, tout le monde comprenne l'ampleur de ce phénomène. Après, quel que soit le nom qu'on met dessus, pour lui, c'est vraiment des querelles secondaires. Et c'est quelqu'un qui, en fait, se définissait comme aussi bien turc qu'arménien, ce qui est assez nouveau. Pour lui, la Turquie, en fait, est toujours pas prête à accepter ou à nier le génocide. Pour l'instant, elle est dans une phase d'apprentissage, comme tu disais tout à l'heure, il va falloir le temps. Et pour lui, en fait, tout ce ramdam autour du génocide arménien, c'est surtout un moyen pour l'Europe d'empêcher pour l'instant la Turquie d'entrer dans l'Union européenne. C'est pour eux une excuse toute trouvée. Et ils trouvent qu'il y a un peu trop de polémiques autour de ce truc-là. Et ce qui est assez bizarre, parce qu'il est quand même arménien et turc. Et ils considèrent aussi que la Turquie est aussi complice du génocide, mais que la communauté internationale qui était au courant de ce qui se passait en 1915 a laissé faire, a elle aussi sa part de responsabilité dans l'histoire. Et on le voit, ce gars-là donc, avait des opinions hyper progressistes. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il a été tué. Non seulement il dérangeait les nationalistes parce qu'il est arménien et qu'il représente quand même un peu la cause arménienne, mais c'est aussi parce qu'il avait des opinions très tempérées, très modérées, qui risquaient justement de faire évoluer les consciences des Turcs. Parce que dans la mesure où il ne les attaque pas frontalement en disant « vous êtes responsables du génocide, vous êtes tous des enfants d'assassins », il avait peut-être lui seul et peut-être quelques autres dans sa mouvance la chance de faire évoluer les consciences et donc forcément de faire avancer les mentalités, ce que les nationalistes refusent. Et c'est pour ça qu'à mon avis, il a été choisi comme cible par les militants nationalistes.
Oui, et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que ce journaliste n'a pas du tout fait l'unanimité dans les médias turcs avant sa mort. Il était plutôt décrié, justement, ce que tu disais, à cause de ses positions un peu hors normes, en fait. Oui. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il a été tué le 19 janvier. Et tout de suite, après son assassinat, il s'est créé une vague de sympathie dans la population turque pour cet homme-là. Et c'est quelque chose d'un peu incroyable. Selon les organisateurs, il y a à peu près 100 000 personnes qui ont manifesté dans les rues d'Istanbul. Et en plus, ces personnes ont manifesté avec toutes le même slogan. Nous sommes tous des Arméniens.
Même ceux qui ne l'étaient pas, oui.
Même ceux qui ne l'étaient pas, et surtout ceux qui ne l'étaient pas. Parce qu'il y a pas mal de Turcs qui n'avaient aucune origine arménienne qui ont défilé. Donc les deux peuples se sont mélangés. Et ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il faut savoir qu'en Turquie, le mot arménien ou le mot Arménie est toujours utilisé avec une connotation négative. Et là, pour la première fois depuis des générations et des générations, des Turcs se revendiquaient arméniens en disant c'est positif. Donc c'est quand même une ouverture phénoménale qui est en train de se passer, même si c'est qu'un début.
Ouais, parce que c'est pas encore fait, parce qu'on a vu qu'après l'assassinat de Randin, il y a quand même eu des menaces de mort proférées à l'encontre d'Orhan Pamuk. Alors Orhan Pamuk, c'est quand même l'écrivain turc qui a reçu le prix Nobel de littérature en 2006. Et il faut dire qu'il est dans le camp de ceux qui veulent que la Turquie reconnaisse le massacre des Arméniens. Donc on peut comprendre qu'il n'ait pas vraiment beaucoup d'amis en Turquie. Et donc suite à l'assassinat de Randin, il a quand même encore été menacé par les nationalistes. Donc c'est pas tout à fait fait, hein. On n'en est pas encore
bien
là.
Sûr, hein. Bien sûr, c'est ce que disait en fait Randin, qu'on en est qu'au tout début. Et il reste encore beaucoup d'efforts pour que le peuple turc comprenne d'où ça vient et accepte sa responsabilité.
Et voilà, ça en est fini pour aujourd'hui de l'histoire de la Turquie et de l'Arménie. Peut-être qu'on reviendra là-dessus, je pense, un petit peu pour un sujet sur les Kurdes prochainement, mais on vous dit pas quand.
Ce sera la surprise.
Surprise aussi pour la prochaine émission, puisqu'en fait, on n'a encore pas trouvé de sujet. Donc, il nous reste un mois pour le trouver. Vous aurez la surprise en même temps que nous. On va se retrouver le 4 mars pour la prochaine émission. D'ici là, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le blog des Sorages qui, miracle, a changé d'hébergeur et a une adresse qui ressemble enfin à quelque chose. Il est d'ailleurs beaucoup plus beau. Pour aller voir visuellement, ça claque. Donc, l'adresse, c'est http://, essorage au pluriel, .vox.com. Et il y a toujours le mail d'essorage, essorage au pluriel, @yahoo.fr. Voilà, essorage, c'est fini. On se retrouve dans un mois.
Même lieu, même heure.
D'ici là, portez-vous bien. Salut.
Salut.